Bonjour, nous allons commencer cette table ronde dont le thème est numérique, édition semi-pro, traduction en anglais, de nouvelles perspectives pour les auteurs, avec un point d'interrogation. Donc, pour discuter de ce sujet, nous avons autour de la table quatre personnes qui sont, je prévois que ce sera très intéressant pour la table ronde, des personnalités inventive, créative et toujours prête à se livrer à des tas d'expérimentations de toutes sortes. Donc,
toi, c'est les expérimentations.
Toi, c'est les expériences.
Ils nous en parleront tout à l'heure. Mais je vais commencer peut-être à gauche par Pierre Pével. Donc, Pierre Pével a été scénariste dans une première vie. Il, en particulier, scénariste de jeux de rôle, je crois, et de jeux vidéo. Il a été, et il est actuellement auteur, mais un auteur multiple, puisqu'il est d'une part passionné de romans historiques. Un certain nombre de ses romans se situent dans cette veine historique. C'est aussi un auteur de fantasy, de fantastique, qui manie l'humour volontiers. On parle de son œuvre en général en évoquant d'une part l'imagination et d'autre part l'érudition, qui ne sont pas toujours des qualités associées. Donc, il a un registre large. Tout de suite à côté, Francis Berthelot. Alors, Francis Berthelot qui a lui aussi un parcours et une carrière originale, puisque, à ma connaissance, c'est sans doute une des seules personnes en France qui ait commencé par une carrière de chercheur au CNRS en biochimie et qui ensuite a changé complètement de voie, mais en restant chercheur au CNRS, pour devenir chercheur en théorie littéraire, ce qui constitue quand même déjà en soi un grand écart assez remarquable, et qui depuis 2007 écrit à plein temps, mais à la fois en tant qu'auteur, plus du tout, alors je ne suis pas à jour, donc tu compléteras les dernières étapes, en tout cas pendant une période comme auteur et comme essayiste, multiprimé, et alors réussissant à être primé à la fois dans le domaine du roman, de la nouvelle, de la littérature jeunesse, ayant positionné à une époque son œuvre en tant que transfiction, c'est-à-dire non liée à un genre ou une thématique spécifique et refusant en tout cas des étiquettes trop contraignantes. Je citerai juste Rivage des Intouchables, La ville au fond de l'œil, Canaor, pour avoir quelques titres. Vous compléterez tout à l'heure cette présentation sans doute largement incomplète. Elle sera incomplète aussi pour nos autres voisins. Stéphane Marsan, qui a eu une première vie en tant qu'auteur, mais qui est surtout là, je pense, il ne faut pas en parler, malheureusement, elle était exposée sur la page des Imaginales avec moult détails. Donc, évitez d'aller consulter la page de Stéphane Marsan. Mais il est surtout là, au titre de ses fonctions actuelles de directeur des éditions Bragelonne, maison d'édition qu'il a créée avec Alain Nevant le 1er avril de l'an 2000, et qui est une maison d'édition, d'abord qui connaît un grand succès, mais qui la connaît en particulier, je crois que Stéphane Marsan le revendique volontiers, parce qu'elle a été toujours prête à innover et à expérimenter bien avant que on ait identifié les directions dans lesquelles elle s'engageait comme étant certaines d'aboutir à de bons résultats. Ça a été vrai d'un point de vue thématique. Une des premières maisons d'édition, par exemple, a exploré le domaine de la bitlit, parmi d'autres. Mais aussi, une des premières maisons d'édition à s'engager d'une manière très intense dans la grande aventure du numérique, en y investissant beaucoup, et d'une manière qui positionne actuellement cette maison d'édition comme une des principales sur le marché français, troisième, je crois, après des maisons d'édition d'une taille absolument beaucoup plus importante. On en reparlera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à un éditeur réactif, innovant et inventif, ce qui me paraît être la caractéristique essentielle des participants à la table ronde et qui correspond aussi, je crois, à l'aventure personnelle de Philippe Ward, Là, je crois que je peux dire que Philippe Ward est auteur, oui. Puisqu'il me semble que les Imaginales oui. y ont porté un intérêt tout à fait particulier cette oui. année, en 2013. Oui. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ici. Oui, ah, ça
je sais rien, tu peux le dire.
Je peux le dire. Oui, donc, lauréat du prix Imaginal 2013, catégorie nouvelle. Donc, c'est un grand honneur de l'avoir avec nous.
Mais je n'ai que la moitié du prix. C'est que la moitié.
Oui, nouvelle écrite en duo. Alors, Philippe Ward écrit en duo ou en solitaire des choses très diverses, puisqu'il écrit des romans fantastiques, des romans policiers, beaucoup de nouvelles. Mais il est aussi éditeur, responsable des éditions Rivière Blanche, avec un catalogue très fourni très abondant, probablement parce qu'il s'est engagé de manière significative, lui aussi, dans l'aventure du numérique, mais d'une autre façon, non pas en produisant forcément des e-books, mais en utilisant les nouvelles technologies, comme l'impression à la demande, ou des manières de travailler qui renouvellent le métier de l'édition. Donc j'ai déjà trop parlé, mais je voulais vous dire un peu qui ils étaient. Nous sommes là pour discuter des nouvelles perspectives qui se présentent aux auteurs et que les éditeurs peuvent proposer. Alors je crois qu'on peut commencer par un petit tour de table assez rapide, en disant chacun ce que vous avez pu proposer de nouveau, les nouveaux projets que vous avez pu faire aboutir ces derniers temps et qui n'auraient pas pu arriver par le passé. On va peut-être commencer par Pierre Pével.
Moi, en ce qui concerne l'édition numérique, tout ce qui est paru en numérique est également paru en papier. Donc, j'ai rien qui est paru... qui a paru en numérique et qui n'aurait pas pu paraître autrement, puisque, à l'évidence, la chose est arrivée. Tel que je vois les choses, pour moi, jusqu'à présent, c'est encore une édition d'appoint. Je pense pas que je ferai une... Je serais ravi si Stéphane m'annonçait « Tu vas rire, ton prochain, on le fait que en numérique ». Mais ceci dit, c'est un mode de diffusion qui est très, très intéressante. Je suis pas du tout hostile au truc. D'autant plus que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, honnêtement, à se demander si l'édition numérique c'est bien ou c'est mal, s'il faut en faire ou s'il faut pas en faire, c'est comme se demander s'il faut faire de la télé-réalité ou pas. Elle est là, ça va pas repartir tout de suite. C'est un facteur avec lequel il faut compter.
Tu comptes faire de la télé-réalité ?
Je compte, oui. D'ailleurs, il faut que je t'en parle parce qu'il faudrait que tu factures. Est-ce que, par exemple, des implants mammaires pourraient passer en frais d'auteur ou si tu pourrais
poser, je me disais aussi.
Vraiment, il faut faire avec. C'est un bien, c'est un mal. Moi, je suis pas ravi de savoir que les éditions, l'édition numérique de mon bouquin peut être diffusée gratuitement et illégalement par certains. Ça m'enchante pas. Maintenant, le monde est comme ça. C'est fait ainsi. Il vaut mieux en prendre son parti que pleurer sur les ruines de Rome.
Francis ?
Moi, je vais être encore un peu plus féroce que Pierre. Mon premier contact avec l'édition numérique, ça a été pour... Le roman qui a suivi dans le cycle que j'écris, Le rêve du démiurge, le roman qui a suivi Le petit cabaret des morts, publié par Le Bélial. Le petit cabaret des morts, c'est tellement mal vendu que Le Bélial m'a dit « Je suis vraiment navré, mais je ne peux sortir le suivant, Carnaval sans roi, que sous format numérique. » Pour moi, un livre numérique, ça n'existe pas. C'est pas un objet, on peut pas le toucher, c'est rien. Ça, c'est, pour moi, qu'il sorte en numérique ou pas, c'est pareil. Donc, avec l'accord d'Olivier Girard, donc directeur du Bélial, qui le publiait en numérique, j'ai cherché un autre éditeur, et c'est là que je vais rejoindre l'autre titre du panel, à savoir Édition Semi-Pro. Et j'ai eu l'immense bonheur d'être accueilli par Philippe Ward dans Rivière Blanche, qui a permis que Carnaval sans roi existe sous format papier. Et ça, ça m'a vraiment rendu extrêmement heureux. Cela dit, Sylvie dit très gentiment que nous sommes des expérimentateurs. Personnellement, j'ai toujours 10 ans de retard sur toutes les choses nouvelles qui apparaissent. J'ai pas d'iPad, si j'ai un iPod, mais j'ai pas d'iPad, j'ai pas de tablette numérique. J'ai le téléphone, oui, ça va.
Tu es sur Facebook ?
Je suis sur Facebook, oui, ça c'est vrai. Beaucoup même.
Oui.
Depuis longtemps.
Depuis longtemps, oui, ça c'est vrai. Bon, alors Pierre disait, on ne peut pas s'opposer, je ne suis pas d'accord. Il y a tout le débat actuel extrêmement violent à propos de relire. La BNF a fait main basse sur tous les ouvrages indisponibles ou orphelins du XXe siècle, y compris ceux qui n'étaient pas orphelins ni indisponibles et qui étaient éventuellement déjà parus au XXIe siècle. Enfin bon, et tout ça, ça va être numérisé dans des conditions qui sont complètement défavorables aux auteurs. Donc c'est un gangstérisme officiel contre lequel le groupe d'auteurs qu'a créé Yael Heyerdahl, le droit du cerf, se bat depuis déjà 2-3 ans. Et on peut, en tout cas, quand on a un bouquin qui apparaît sur leur liste, on peut s'opposer à ce qu'ils le numérisent. Moi, j'ai 4 livres qui apparaissent sur la première liste. Ils publient une liste de 50 000 ouvrages chaque année au mois de mars. Ils en ont donc publié une première cette année. J'avais 4 bouquins dedans. Je me suis opposé instantanément à ce qu'ils le numérisent. Et j'ai par ailleurs signé contrat avec ActuSF qui souhaitait numériser des ouvrages. Et j'ai signé pour deux de mes ouvrages un accord avec ActuSF qui me propose des conditions tout à fait décentes et raisonnables et qui est quelqu'un de réel et non pas Dieu sait quelle société fantôme qui se fout complètement des auteurs, avec l'assentiment du gouvernement Sarkozy et du gouvernement actuel, malheureusement. Voilà.
Bon, on a quand même des auteurs qu'on ne sent pas débordants d'enthousiasme. qui ont l'air de considérer ce qu'apportent les nouvelles technologies comme une manière de limiter les dégâts ou un moindre mal, peut-être. Voyons si, du côté des éditeurs, on a une autre vision et d'autres projets. Voilà. Qui commence?
Quand en 2004, avec Jean-Marc Loffician dans la série Rivière Blanche, on avait une devise qui était « Rivière Blanche, le dernier éditeur avant l'oubli ». Et pour nous, l'impression à la demande a été justement le fait qu'on a pu publier des romans qui, sinon, seraient tombés dans l'oubli. Pour des raisons financières, je veux dire que ce n'est pas notre travail, moi j'ai un travail. Moi, ce que je voulais, c'est que je voulais dormir la nuit. C'est-à-dire que je ne voulais pas avoir le problème du banquier derrière, le couteau sous la gorge parce qu'on n'avait pas payé de traite. Et l'impression à la demande a été pour nous une révolution. C'est-à-dire que avec un budget de 300 €, on a pu sortir le premier livre à 50 exemplaires. On a un imprimeur qui est en Angleterre. On passe la commande le lundi, le jeudi matin, elle arrive en Ariège. L'Ariège, c'est au fin fond des Pyrénées. Je veux dire que je n'ai pas de stock. Si j'avais eu un stock, ma femme m'aurait mis dehors. Je vous signale qu'on a au catalogue 200 exemplaires. Si on avait dû publier 200 titres, oh là là, 200 titres, si on avait publié 1000 exemplaires, je ne vous dis pas où j'aurais dormi. Donc pour nous, l'impression à la demande a été vraiment une révolution. Et on a pu sortir Rivière Blanche, 200 et quelques volumes, grâce à ça. Donc, l'impression à demande plus Internet, pour nous, ça a été vraiment une révolution. Quand je dis le dernier éditeur avant l'oubli, on avait même pire. On avait dit au départ le dernier éditeur avant la poubelle. C'était encore pire que ça. Mais c'est vrai que je veux dire que beaucoup d'auteurs qu'on a sortis, je savais qu'ils avaient leur manuscrit. Je savais que les éditeurs, entre guillemets, normaux, ne les auraient jamais édités. Et que nous, on a pu donner une vie à ces livres. Bon, Francis l'a dit, on a pu donner vie à son livre papier. Maintenant, pour le numérique, nous, on n'en fait pas. Pourtant, je considère, moi, le numérique comme la troisième révolution du livre. Pour moi, il y a eu l'imprimerie, le livre de poche et le numérique. Moi, je n'en fais pas pour une raison très simple, c'est que j'ai pas le temps. C'est-à-dire que j'ai un boulot à côté qui n'a rien à voir à l'édition. Sinon, si j'avais eu 20 ans de moins ou 10 ans de plus, je serais à la retraite, j'aurais fait que du numérique. Parce que pour moi, le numérique, c'est la révolution de demain. Et comme je dis, les révolutions, on les fait ou on ne les fait pas, ou on les subit. Bon, j'aurais bien aimé faire cette révolution. Manque de temps, ou peut-être en 10 ans, j'y ferai. Et c'est pour ça que ce que fait Stéphane, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Et je pense que le numérique, dans 15-20 ans, va détrôner les livres papier. Je suis quelqu'un qui a chez lui plus de 10 000 livres papier, qui est amoureux des livres papier, mais bon,
J'ai vu l'évolution avec mon fils, le livre papier, il s'en fout royalement, il va lire sur tablette, sur iPad et tout ça. Je vois ceux qui vont arriver maintenant dans les écoles primaires, dans les collèges, ils vont pas savoir ce que c'est qu'un livre papier scolaire dans quelques années, ils sauront même pas ce que c'est. Quand ils voudront acheter le Molière qu'on va leur obliger, ben ils le téléchargeront, ils iront plus l'acheter chez le libraire. Et la révolution numérique va changer tout le monde. Les auteurs, les lecteurs, les libraires, les éditeurs et même les organisateurs de salons. Parce que comment on va pouvoir dédicacer? C'est amusant, il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure, il a fait dédicacer 2 livres sur sa tablette. Il les avait achetés et les 2 auteurs ont dédicacé sur la tablette.
Ils ont fait comment?
Avec un stylet. Tu peux dédicacer sur la tablette avec un stylet.
Ah ouais. J'ai déjà fait ça, j'ai vu un type avec une tablette. En fait, il y a certains formats qui permettent d'ajouter des notes.
Voilà.
Des
et, notes dans, en bas de table. Voilà.
Et donc j'ai signé la page de garde.
Voilà, tu as signé, tu as vu. Mais je veux dire qu'il y en a peut-être un aujourd'hui.
L'an dernier.
Dans 2 ans, l'année prochaine, il y aura peut-être 10. Dans 10 ans, il y aura peut-être tout le monde. Et donc c'est pour ça que pour moi, le numérique, c'est l'avenir du livre.
Ta question, c'est sur le numérique, juste. Hein.
Ah non, non, toi, tu vois.
Parce que dans ton intitulé, il n'y a pas seulement le numérique, il y a la trad, il y a plein de trucs.
Si vous en étiez resté au numérique, j'aurais aimé qu'on élargisse par la suite, mais on peut le faire tout de suite. Il ne s'agit pas uniquement de parler du e-book.
Moi, je pense que, dans ton intervention, Philippe, tu cernes un enjeu majeur qui est, en effet, la conservation et la mise à disposition. C'est-à-dire que le numérique, ça sert notamment à ça. C'est-à-dire, alors évidemment, ce qu'a mentionné Francis à propos de relire, etc., évidemment, est scandaleux et absurde, mais pour ceux que ça intéresse, vous trouverez de l'information sur Internet, on ne va pas en parler pendant 1 heure. Ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire des ouvrages qui, l'État mettait à disposition des ressources financières pour numériser des ouvrages de façon à ce qu'ils restent ou redeviennent disponibles. Là où c'est extrêmement mal foutu, c'est qu'ils ont fait ça n'importe comment et que du coup on est obligé de s'y opposer alors que ça aurait pu être quand même assez pratique. Et que les auteurs sont spoliés au passage, ce qui n'est pas une très très bonne idée. Mais c'est quand même un enjeu important. Ceci dit, ça nous permet, nous, par exemple, d'avoir un label ou une collection numérique qui s'appelle Bragelonne Classique, au sein de laquelle on réédite en numérique des ouvrages qui nous semblent importants de l'histoire de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, etc., que nous ne pourrions pas plus que d'autres éditeurs, rééditer au format papier, tout simplement parce que leur potentiel commercial ou la capacité de l'accueil de la librairie aujourd'hui rendrait cette opération impossible financièrement et commercialement. Et pourtant, ces ouvrages ne sont pas des moindres. Enfin, quand je réédite des gens comme Arthur C. Clarke, par exemple, on pourrait se dire, mais c'est quand même extraordinaire que Arthur C. Clarke, que l'intégralité de l'œuvre d'Arthur C. Clarke soit absente de la librairie sous format papier. Oui, mais c'est la réalité de la librairie aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de livres déjà disponibles pour que toutes les librairies puissent les proposer, à part Amazon, et a fortiori, encore moins pour des ouvrages qui intéressent assez peu de gens. Donc aussi bien pour le numérique que pour l'impression à la demande qu'a évoqué Philippe, en effet, il y a une vertu à utiliser d'autres moyens, d'autres technologies, de façon à remplir et atteindre le même objectif qui est la disponibilité, alors peut-être pas de livres, je suis assez d'accord somme toute avec ce qu'a dit Francis, d'une certaine façon, ce ne sont pas des livres, enfin les tiens si bien sûr, mais les numériques, c'est pas du livre, mais c'est de la lecture. C'est-à-dire l'œuvre reste vivante et disponible, et c'est quand même ça qui compte plus que le papier. Je pense que on a encore plus intérêt à lire un texte sur un écran que d'acheter des ouvrages dont les pages seraient blanches. Hein. Donc c'est le texte qui nous intéresse plus que le papier. Mais y a un truc que tu as dit, Philippe, qui à mon avis quand même pose question, qui est, grâce à l'impression à la demande, tu peux publier des ouvrages qui sinon n'auraient pas été publiés. Tous les textes n'ont pas à être publiés. Je vais, comme d'habitude, jouer le rôle du mauvais con. C'est qu'il y a beaucoup trop de livres qui sont publiés. Et tous les gens qui écrivent des livres ne méritent pas nécessairement d'être publiés. Je suis désolé pour eux. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même qu'il faut, essayer de délimiter, essayer d'utiliser à bon escient ces technologies de façon à en ce qui nous concerne, nous, rester éditeurs, c'est-à-dire rester des gens qui sélectionnons le plus, avec la plus grande pertinence, la plus grande prudence, ce que nous avons décidé de publier. Il ne s'agit pas d'utiliser, enfin je pense qu'il ne faut pas utiliser cette technologie pour publier n'importe quoi. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, particulièrement avec Amazon, encore eux, et le système de self-publishing, c'est-à-dire d'auto-édition, où en effet, on peut mettre à disposition de la lecture aujourd'hui commercialement sans avoir besoin ni d'éditeur, ni d'agent, ni de libraire, ni de diffuseur, ni de distributeur, etc. Simplement en faisant ça sur Amazon. Et c'est à la fois merveilleux et effrayant parce que ça fait que bah, y a beaucoup de choses qui sont rendues disponibles et qui... il s'agit pas... Enfin, c'est pas un discours de censeur, c'est un discours de... Éditer des ouvrages, c'est quelque chose qu'on... Enfin, on y réfléchit avant de le faire. Donc, à partir du moment où cette réflexion devient absente, c'est plus tout à fait la même chose. En ce qui concerne l'activité de Bragelonne, oui, en effet, on a, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, je crois, on a décidé de pas mal développer le numérique, et j'en suis ravi. Notamment parce que c'est un revenu complémentaire, et c'est notamment un revenu complémentaire pour les auteurs. C'est-à-dire que, et c'est là que je répondrai à Francis, qu'il y a une vertu pour des ouvrages d'auteurs vivants, hein, pas pour du patrimoine, pas pour des archives qui disparaîtraient sinon. Il y a une vertu du numérique qui consiste à apporter un lectorat complémentaire, un support complémentaire, un revenu complémentaire qui, dans la plupart des cas, n'est pas insignifiant et dans même certains cas, est extrêmement, significatif. C'est-à-dire que les meilleures ventes en numérique dans le catalogue Bragelonne, c'est 2000, 3000, 6000 exemplaires. 6000 exemplaires à 5 euros, chers amis, tous autant qu'on est, ça représente quand même quelque chose. Et ça veut dire que c'est aussi une vente, des ventes qui sont faites, et tu viens exactement de le dire, Philippe, et j'en suis heureux, qui sont faites aussi auprès de gens qui achètent également du livre papier, voire même qui ont aussi acheté le même livre en papier. Bon. Et se balader avec une caisse, avec une valise pleine de livres, ou se balader avec une liseuse pleine de livres, voilà, enfin, il y a un aspect pratique tout bête. Hein. Bon. Donc, voilà, en un mot, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a pas mal d'emplois, d'utilisation du numérique, qui sont à la fois extrêmement donc vertueuses, extrêmement pratiques, qui sont à la fois également, qui imposent ou qui exigent une vigilance et une réflexion pour pas faire n'importe quoi. Ceci dit, en même temps, publier des bouquins, même s'ils sont pas très bons, ou même s'ils n'ont pas été choisis par des éditeurs, après tout, on n'a pas la science infuse, ça fait de mal à personne. Moi, je préfère qu'il y ait trop de livres que pas assez. Et dernier point, on est quand même très loin de l'expérience états-unienne, hein, je voudrais quand même le rappeler, parce que là j'ai mentionné Amazon et le self-publishing, etc. Le marché du livre numérique aux États-Unis aujourd'hui, raisonnablement, c'est entre 16 et 20% du marché, ce qui est déjà énorme, hein, c'est quasiment un cinquième. Dans certains genres à grosse consommation, comme la romance, c'est la moitié, c'est-à-dire que la romance, c'est 50% du marché du livre aux États-Unis. Un livre sur deux vendu aux États-Unis est un roman d'amour. Et le numérique dans la romance, c'est 50%. C'est-à-dire que, bon, donc faites le calcul, c'est 500 millions de dollars. Le marché du livre numérique de romance aux États-Unis, c'est énorme. On est très très loin de ça. Hein. En France, c'est à peu près 2% du marché. Nous, on est assez en avance avec quelques collègues comme Arlequin, qui est le premier éditeur numérique en France, CQFD, avec 5%. Voilà, ça fait du bien, ça paye des salaires et ça vend des livres pour les auteurs, mais ce n'est pas encore une menace, et je doute que ça devienne véritablement une menace, parce qu'il y a plein de freins et d'obstacles liés au développement du numérique dans ce pays.
Alors, je propose qu'on laisse provisoirement de côté l'aspect économique et l'aspect marché pour revenir à une question qui va peut-être un peu titiller nos auteurs. On est en train de parler du livre numérique en disant en gros que c'est un truc, c'est le livre sans le papier. C'est-à-dire qu'on en parle comme si on avait enlevé une dimension de ce qu'était l'ancien objet libre. Et moi, j'aimerais bien savoir si le fait de travailler dans un environnement d'une autre nature, le numérique, c'est aussi le multimédia. Commençons par les auteurs, là encore, si ça leur donne envie de se lancer dans d'autres créations, dans d'autres types de projets, ou est-ce qu'ils se considèrent comme des auteurs de textes destinés à la lecture? Et à ce moment-là, effectivement, comme disait Stéphane Marsan, un jour, on en arrivera sans doute à considérer que peu importe le support. Mais est-ce que le numérique vous offre d'autres envies ou d'autres projets en tant qu'auteur, en combinant de l'image, de la vidéo, pourquoi pas des séquences de différentes natures, voilà. De quoi vous auriez envie, même si vous ne le faites pas? Pierre Pével?
Je me souviens que lorsque le livre numérique était encore qu'un projet, quasiment encore de la science-fiction, on se demandait, mais alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et on se disait, ben voilà, quand le héros il entrera dans une pièce, on entendra la porte grincer parce qu'il y aura ce qu'il faut pour faire du bruit. Et puis quand ça deviendra peut-être un peu menaçant, le texte pourrait s'assombrir, etc. Je pense que je caricature évidemment, mais ça relève probablement du gadget. Ou alors, pourquoi pas, mais avec des œuvres qui auraient été pensées pour ça dès le début. Moi, j'ai pas tellement envie qu'on rajoute des bruits de calèche sur la promenade en fiacre dans Madame Bovary, par exemple. Je trouve pas ça pertinent. Mais pour un texte qui aurait été absolument pensé comme ça, comme un nouveau média, une nouvelle manière de raconter des histoires où il y aurait tout, du son, de l'image, pourquoi pas, après tout, en support du texte. Je reste assez dubitatif, mais ce dont je suis à peu près convaincu, c'est que ça fera l'objet probablement d'un nouveau métier. Ça requiert sans doute de nouveaux talents. Il est possible d'être un bon scénariste de bande dessinée, un bon romancier. Tous les bons romanciers ne sont pas de bons scénaristes de bande dessinée et vice-versa. Je pense que si on devait créer ce genre de texte enrichi, ça demande un talent particulier. Et là, pour le coup, je ne suis pas du tout sûr de l'avoir. Et puis, je ne sais pas, enfin, j'essaye de visualiser comment ça pourrait se passer. J'écrirai mon texte, puis je mettrai en marche sur le document Word, ici, bruit de porte, ou je sais pas. C'est peut-être du corporatisme, mais j'ai aussi envie de penser que le talent du romancier, c'est que les odeurs, le son, les images et tout ça, bah, ça passe par le texte, hein, c'est ça qu'on est censé faire à la base. On n'est pas que dans du purement factuel avec un bon texte, un bon roman. Logiquement, le lecteur, il le referme, mais il a entendu les bruits, il a vu les images, je sais pas. Je pense que si j'étais plus énervé, je dirais qu'il faut peut-être manquer un peu de talent pour avoir besoin qu'on mette des bruits de porte sur une porte qui s'ouvre dans un roman. Quoi.
Francis Berthelot, qui est aussi un théoricien de la création et de l'écriture, la même réaction?
Non, alors là, je précise que tu t'adresses à quelqu'un qui est mort. Hein. Je suis un écrivain posthume, j'ai arrêté d'écrire il y a 2 ans, parce que j'avais terminé un cycle de 9 romans, dont d'ailleurs le 9e n'est pas encore paru, qui doit être réédité sous forme d'omnibus par le Bélial, quand le Bélial aura assez de sous pour le faire. Et ayant terminé ce cycle, eh bien, il m'est apparu que j'avais dit tout ce que j'avais à dire avec des mots. Donc j'ai opéré encore un virage à 180 degrés, un de plus. Et actuellement, je compose de la musique de ballet par ordinateur. C'est-à-dire que je suis passé à quelque chose de tout à fait différent. J'ai composé un premier ballet qui fait 74 minutes, c'est-à-dire la durée d'un CD. Je suis en train d'en terminer un second et je fais ça uniquement par ordinateur avec un logiciel de composition musicale qui est très courant, qui s'appelle GarageBand, et une bibliothèque de sons. Et par ailleurs, je suis à la recherche d'une maison de production qui puisse me masteriser cet objet qui est un objet intermédiaire. Moi, j'arrive à composer pour orchestre, mais la qualité du son n'est pas suffisante. Il faut une étape qui s'appelle la masterisation pour obtenir un CD. Donc, je suis en négociation avec diverses maisons de disques à un moment où le marché du disque s'effondre exactement de la même manière et pour la même raison que le marché du livre. C'est-à-dire qu'on a aussi le téléchargement musical qui est en train de fusiller l'industrie du CD matière. C'est-à-dire que l'objet CD, il est en train de disparaître comme a disparu ou comme est en train de disparaître l'objet livre. C'est le même problème. Donc, j'espère arriver à avoir ma musique en objet CD, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir. Par ailleurs, dans le domaine de la musique, l'autopublication est moins mal vue ou n'est pas mal vue comme elle l'est dans le domaine de la littérature. Donc, c'est aussi une option possible. Alors, je suis confronté à une situation un peu bizarre, à savoir que écrire de la musique a toujours été un rêve pour moi, et spécialement des ballets. Pourquoi des ballets ? Parce qu'un ballet, c'est une façon de raconter une histoire. Ce que je ne fais plus avec des mots, je fais la même chose avec des notes. Et j'ai des amis qui ont lu mes romans et qui ont entendu mon premier ballet, et ils m'ont tous dit, c'est exactement la même chose. Ce que je pense également. Donc, j'ai pu réaliser ce rêve grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'apparition des logiciels de composition, des banques d'instruments. Je peux fabriquer ma musique et l'entendre et faire moi-même un CD que je peux passer à mes copains s'ils viennent à la maison. Je peux leur faire entendre sur un CD que, bon, qui n'est pas complètement abouti puisqu'il n'est pas masterisé, mais l'objet CD, il existe, je peux le faire moi-même. Je n'ai pas besoin de musicien. Et ça, c'est un rêve qui se réalise grâce aux nouvelles technologies. Je n'aurais jamais pensé il y a 20 ans que ça m'arriverait. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai ressenti en composant mon premier ballet, exactement la même excitation que j'avais quand j'ai écrit mon premier roman. Oh, moi, j'ai fait ça, je suis en train de faire ça, mais c'est pas Dieu possible. Et j'arrive en même temps au moment où ça se casse la gueule, tout devient... l'objet disparaît, on télécharge, donc je sais pas ce qui va se passer. Je suis dans cette espèce de... Et puis en plus, bon, évidemment, ce que j'écris est complètement à contre-courant de ce qui s'écrit maintenant. Donc, je ne mets pas tous les atouts de mon côté. Mais je vis une transformation à plusieurs niveaux. Et c'est assez étrange. Je vous en dirai plus l'année prochaine, j'espère.
Quand je vous disais qu'on avait à cette table des créatifs qui faisaient de l'innovation et de l'expérimentation d'une manière inattendue, je crois qu'on est tous... c'est quand même assez extraordinaire d'avoir. Moi, je l'ignorais totalement. Je ne sais pas si mes camarades autour de la table connaissaient le nouveau travail de Francis.
Sur Facebook.
Oui, par Facebook. Je ne suis pas assez assidu.
C'est sur Facebook. Mais c'est sur Facebook. J'ai publié sur ma page Facebook. J'ai publié 5 extraits de.
Mais c'est quand même une nouvelle manière d'écrire des histoires qui n'est peut-être pas directement comparable, mais apparemment du point de vue du créateur. Il y a des émotions comparables, donc il se joue un peu la même chose. Moi, j'aimerais savoir si les éditeurs, maintenant, ont des projets ou des envies dans cette direction qui soient renouvelés par le numérique, d'une nature différente, et qui ne soient pas strictement de la lecture, au sens où ça existait jusqu'à présent.
Je dirais là, ça va être en tant qu'auteur, je dirais qu'avec Sylvie, pour notre série La Serre, on a décidé de s'amuser un peu. Donc on a créé un site...
Sylvie Miller,
oui. On a créé un site internet où justement on rajoute des informations sur notre série, sur l'Égypte, on a même mis des recettes de cuisine égyptienne et choses comme ça. On a mis les descriptions de voitures. On a mis aussi comment on travaille, on a des interviews et tout. Donc c'est peut-être un plus qui pourra un jour arriver dans un livre numérique. On a bien entendu la page Facebook La Serre. Ça aussi, c'est, je dirais, presque une obligation. Ça ne sert à pas grand-chose, mais bon, il faut y être. Parce que je ne sais pas si Facebook apporte beaucoup ou autre. Bon, en tant qu'éditeur, non, moi je l'ai dit, moi je resterai un éditeur papier parce que pour des raisons de disponibilité, de temps, ou alors si je gagne à l'euro million ou si on me met la retraite un peu plus tôt. Mais c'est vrai que j'aimerais un jour tenter un livre où il y a autre chose, je sais pas quoi. Alors bien sûr, c'est peut-être plus facile de voir des livres, par exemple, visiter le château de Versailles en numérique, ça serait mieux qu'un roman. Visiter la ville d'Épinal, ça serait mieux. Avec interview du maire et tout ça, ça serait un livre multimédia. Un roman, pour l'instant, ça me paraît difficile. Je dirais, par exemple, un livre sur la science-fiction française, en mettant des couvertures, en mettant les interviews des auteurs qu'on peut retrouver, en mettant des vidéos, ça apporterait un plus.
un roman, là je suis comme Pierre, je sais pas, mettre les bruits, ça me paraît pour l'instant un peu trop. Mais qui sait, dans 10 ans, je veux dire que... en 10 ans, on a beaucoup évolué. Je veux dire que moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais, comme je disais tout à l'heure, une machine à écrire. Et le traitement de texte, ça a été vraiment révolutionnaire. Je ne l'imaginais même pas à l'époque, le traitement de texte. Alors, quel sera le livre dans 10 ans? Moi, je ne sais absolument rien. Déjà, je veux dire que j'ai une tablette. Je ne pensais pas avoir une tablette il y a 3 ans. Je veux dire, chez moi, j'avais 10 000 livres papier. Je pouvais presque tous les mettre dans ma tablette et les porter tous en même temps. Je veux dire, je suis un amoureux des livres papier. Mais maintenant, la tablette, pour lire... pour lire au lit, c'est génial une tablette. Au lieu d'avoir le gros pavé, vous avez ça, vous lisez ça. Donc c'est une évolution. Après le livre, je vois plus dans un premier temps le livre, on va dire, allez, le livre d'art, le livre thématique, qui apportera plus que le roman. Pour le roman, pour l'instant, je ne vois pas de ce qu'on peut apporter de plus. Mais il y a peut-être qui auront des idées dans quelques années.
On a fait 2-3 trucs qui sont liés. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est alors c'est ce qu'on appelle en numérique le livre enrichi, hein, c'est-à-dire à la lecture s'ajoute en effet comme l'a dit Pierre des éléments où, bon, du son, de l'image, etc. Bon. Moi, je suis d'accord avec toi, Philippe. C'est que je suis un éditeur de contenu à lire, et je suis pas un éditeur de vidéo ou de son, et je suis même pas un compositeur de ballet sur ordinateur. Donc, mais on peut essayer de trouver des trucs pertinents. Alors, j'ai 2 exemples. C'est bien que Pierre soit à cette table. On a fait une... alors, donc, évidemment, les Lames du Cardinal sont disponibles en numérique. Et nos collègues de Idantes, qui est une maison de diffusion numérique, ont créé un ouvrage qui est une édition bilingue sur iPad. Puisque les Lames du Cardinal sont traduites et publiées en anglais par un éditeur anglais. Et en fait, on a fait ça avec eux, c'est-à-dire que sur l'écran de l'iPad, vous avez le texte en français, et si vous tapotez sur un mot, eh ben, hop, le paragraphe apparaît en anglais. Et vous pouvez faire ça sur toute une page ou seulement une portion du texte, etc. Et on a trouvé que c'était une expérience amusante parce que du coup, ça permet de comparer immédiatement le texte en français, le texte en anglais, de voir au passage le travail du traducteur. Voilà. Donc, c'est pas, ça va pas révolutionner nos vies, mais disons que c'est voilà un objet numérique, informatique qui permet de montrer ce qui a été fait dans le domaine de la traduction. Un deuxième exemple, c'est on a fait une édition de Magicien, le roman de Raymond Feist, une édition collector, dans laquelle il y a une carte au début, hein, roman de fantasy, il y a une carte au début, et à tout moment, pendant que vous lisez le bouquin, vous pouvez voir sur la carte où se trouvent les personnages. Bon, c'est rigolo, ça en fait une édition collector, il y a plein de trucs, etc. Mais on peut mettre une interview de l'auteur, par exemple, dans un livre enrichi. Ça, je trouve ça pas mal. Moi, ça m'aurait bien plu, quand j'étais jeune, ou même encore maintenant, que je ne le suis plus, lire un roman et aller à la fin du roman et voir l'auteur en train de parler de son bouquin. Bon. Donc, c'est des trucs comme ça. Mais ce qui me semble important, c'est que... ça, ce n'est encore que enfin, une façon d'agrémenter un livre qui fondamentalement ne change pas. Alors que quand vous regardez, par exemple, ce qui se fait en jeunesse, ce sont des œuvres multimédia, des albums illustrés virtuels sur iPad avec des trucs absolument extraordinaires, magnifiques, qui sont de véritables créations artistiques avec une ambiance où, en effet, il ne s'agit pas juste d'ajouter le bruit de la porte, mais avec une ambiance musicale ou le bruit de la pluie, etc. Et l'expérience de lire cet album, de le parcourir ou de le présenter à son gamin, etc., c'est absolument merveilleux et ça a beaucoup plus de sens. Donc, je crois que ça, la question, c'est de savoir ce qu'on... Enfin, quel est... ce qu'on fait, enfin, quel est notre métier, ce qu'on a envie d'apporter. Je regarde de très près quand même ce que font des gens comme qui écrivent et publient directement en numérique, comme Jeff Balek, par exemple, qui crée un univers partagé, une ville à travers différentes époques, etc. Vous pouvez aller sur Internet, il y a des histoires vachement bien faites. Enfin, c'est un très bon écrivain qui raconte des histoires de mystères, d'espionnage, de steampunk, etc., qui se passe toujours dans la même ville, mais à différentes époques. Et voilà quelqu'un qui fait un très beau travail dans ce qu'on appelle le transmédia, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour lui de transposer un roman dans une autre expérience qui serait agrémentée d'autres éléments multimédia, etc. Mais il s'agit de penser dès le début son univers et la convergence de ces histoires comme quelque chose qui peut donner lieu à de la vidéo, à de la musique, à des chansons, à des lectures numériques ou papier, etc., même des événements autour de nous. Et je trouve que c'est une perspective fascinante. Je ne suis pas sûr que ce soit à moi, éditeur, de faire des trucs comme ça. Mais je trouve formidable que, pour répondre à ce que tu disais, Sylvie, que des auteurs s'engagent dans cette perspective en inventant véritablement quelque chose de nouveau autour de ça.
Je voudrais dire deux choses. D'une part, alors là, moi, je rebondis sur ce que dit Stéphane, et là où je crois vraiment à des vertus du numérique, c'est en fait, c'est les bonus DVD, quoi. C'est ce qu'on peut rajouter en marge du texte, en effet, une interview de l'auteur, pourquoi pas, ou alors une version antérieure du texte. Moi, en tant que lecteur, je trouverais fascinant de pouvoir voir, j'aime déjà voir les manuscrits d'auteur, mais quoi, voir les corrections d'épreuves, ce genre de choses, donc tout ce que l'université fait parfois comme ouvrage critique. Mais là, on pourrait l'avoir directement et voir des versions antérieures du texte, ça, ce serait, et ça ne coûterait pas beaucoup plus cher, justement, c'est aussi l'avantage, on les aurait facilement. Ce serait très, très 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 intéressant. Puis je voudrais dire une deuxième chose, c'est que le numérique, à mon avis, permet en effet probablement de faire des nouvelles choses, donc peut-être une nouvelle manière de raconter des histoires, mais avec des textes qui sont conçus pour ça. Moi, je vois aussi un avantage, c'est que ça permet de faire des vieux trucs. C'est-à-dire que ça permet par exemple de revenir au feuilleton. On en a souvent parlé avec Stéphane, c'est une sorte de rêve qu'on a régulièrement de se dire, mais on pourrait essayer de se lancer sur quelque chose, un truc qui durerait 6 mois, il y aurait un épisode qui sortirait par semaine ou par 15 jours ou par mois, on l'écrirait d'avance, ça sortirait vite, on verrait, on pourrait peut-être le vendre pas trop cher, voir comment ça marche. Bref, et donc revenir finalement à des vieux trucs, des récits de feuilletonistes qui paraissaient dans les journaux fin 19e, début 20e. Donc le numérique permet aussi ça, parce que... faire qu'un texte en numérique, c'est pas exactement comme prendre le texte Word et puis le balancer sur tablette, ça demande quand même un peu de travail, mais financièrement, ça permet de faire des expérimentations. Et enfin, dernier truc, ça je sais parce qu'on en a également parlé avec Stéphane, ça ne me concerne pas directement, mais moi je pense aussi éventuellement à de jeunes auteurs qui peuvent, là pour le coup, proposer des textes à Stéphane. Stéphane se dit oui, c'est intéressant, mais c'est quand même pas génial. La solution normalement pour un éditeur classique, c'est de dire au garçon, à l'auteur, écoute, oui, c'est bien, mais viens me voir avec le prochain, reviens dans un an avec un nouveau texte, celui-là on ne peut pas le publier, il n'est pas encore, mais l'an prochain reviens. Avec le numérique, il y a peut-être une solution intermédiaire qui est finalement intéressante, c'est de dire à l'auteur, je ne vais pas le faire en papier parce qu'honnêtement, ce n'est pas encore ça. Par contre, je pense que tu as besoin d'être encouragé, tu as également besoin éventuellement que ça te rapporte un peu d'argent. Donc une édition numérique, c'est une vraie édition, tu es quand même chez un vrai éditeur, ce n'est pas un truc que tu publies toi-même sur ton blog. Donc ça peut être intéressant. Et donc moi, j'y vois vraiment l'avantage, en tout cas moi, en tant qu'auteur, j'aurais sans doute aimé ça. C'est de me dire, mon éditeur, il croit quand même assez en moi, c'est pas encore parfait, mais au moins, c'est encourageant, c'est une première étape, c'est pas encore le papier, mais le numérique va quand même me permettre d'avoir une existence. Et puis, qui sait, un bouquin en numérique, il peut très bien marcher comme ça, un peu par surprise, et faire donc, avoir une bonne une vertu, quoi.
Mais là, il y a un travail aussi à faire au niveau des auteurs, hein. Parce que pour les auteurs que moi, je vois chez Rivière Blanche, 99% c'est le papier. Et quand aussi, moi, je leur dis à certains, pensez au numérique, j'ai toujours des réponses. Ah non, il y aura peut-être un travail à faire dans les nouvelles générations qui vont, eux, arriver. Mais aujourd'hui, moi, je sais que quand je leur dis, essayez le numérique, essayez de voir ça, ah non, moi, je vais être édité papier, je vais être dans la librairie de de ma rue. Et il y a un travail psychologique, là, qui est...
Oui, pas que.
Mais moi...
Vous savez comment on dit édition à compte d'auteur en anglais? C'est Vanity Publishing. Donc, il faut savoir aussi pourquoi on fait des livres.
Voilà,
si
oui,
c'est pour les montrer à la grand-mère, tu as vu, ma mère, je suis dans la librairie du village, c'est un autre débat. Quoi.
Mais moi aussi, je le reçois parce que dans les lettres, les lettres de refus que j'ai souvent ça. Et je leur dis, essayez de numérique. Pour les nouveaux auteurs, c'est vrai qu'il y a une nouvelle Eldorado.
Il nous reste vraiment très peu de temps. Il y a une dernière question sur laquelle j'aimerais bien vous interroger un petit peu. Et en plus, on est en train de commencer à s'y engager. Le numérique, ce n'est pas seulement des nouveaux projets, des nouveaux résultats. C'est aussi des nouvelles manières de travailler et de communiquer. On pourrait parler de tout ce que ça change dans les relations auteurs, traducteurs, éditeurs, etc. Je vais juste vous interroger rapidement sur un point. Qu'est-ce que ça change dans les relations aux lecteurs? Entre l'auteur et le lecteur ou entre l'éditeur et le lecteur. Est-ce que ça renouvelle cette relation?
C'est une boutade, mais pas totalement. Moi, ça fait que, en fait, certains lecteurs achètent deux fois le texte. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent eu des gens, de plus en plus souvent, je vois arriver en dédicace des lecteurs qui me disent bah, « Moi, j'ai acheté le premier tome, par exemple, en numérique, ça m'a plu, donc j'achète la trilogie. » Ou « Je l'ai acheté en numérique, mais ça me plaît, mais vous êtes là, j'ai envie de me faire dédicacer quelque chose, et donc je prends le bouquin. » Mais fondamentalement, le rapport au lecteur, je ne crois pas qu'il soit vraiment très différent. L'auteur, il ne fait jamais... Lui, il ne faut jamais oublier que faire le livre, c'est un métier d'éditeur. Un auteur, ça fait un texte. Ensuite, ça devient quelque chose... ça peut devenir un texte numérique... Enfin, un produit numérique ou un produit papier. Mais le livre, c'est un... Il est fait par l'éditeur. C'est lui qui produit le livre, qui fabrique le livre. Nous, on ne fait que le texte. Fut un temps, ce texte, il était tapé machine ou écrit sur papier à la main. Maintenant, je pense que là, quand même, la plupart d'entre nous, même toi, j'imagine que tu as écrit sur ordinateur quand tu écrivais.
Ah oui, voilà. J'ai jamais écrit à la main.
Voilà. Donc, et ce texte-là, que l'on rend donc de manière numérique à l'éditeur. Moi aussi, j'ai commencé par la machine. Ensuite, j'ai envoyé mes manuscrits par la poste. Maintenant, évidemment, avec email, tout va beaucoup plus vite. Mais le texte qu'on produit, finalement, est parfaitement immatériel. Ce fameux livre qu'on a tendance à vénérer, et je comprends parce que ça peut devenir de très, très beaux objets, mais qui devient tout d'un coup, le livre est un objet. Le livre est un objet quand c'est un livre. Avant, c'est un texte. Et un texte, c'est absolument immatériel. C'est de la langue. Et même que... C'est que dans le sens que l'on attribue au caractère qu'on lit sur un papier que nous avons écrit, ou alors qu'on en attribue au document numérique informatique qu'on envoie à l'éditeur. Mais un texte, c'est immatériel, par essence. Un texte, ça n'existe pas. En soi, ça existe que quand ça devient un objet, que quand ça devient un livre, ou un papyrus, ou un rouleau, ou une fresque gravée. Mais sinon, un texte...
Alors moi je vais dire, moi je pense que le numérique nous permettra de toucher peut-être d'autres lecteurs, un nouveau lectorat. Un lectorat qui, le livre papier lui fait peur, et surtout un lectorat au niveau des jeunes.
Je voulais vous interroger aussi sur le retour que vous faisiez les lecteurs. Est-ce que vous avez plus de réactions? On n'est plus seulement dans la diffusion, on est dans le web 2.0 maintenant.
Chez nous, ça change pas grand-chose.
Vous n'avez pas un forum
Un lecteur. Ah, si, bien sûr, mais sur un forum, les lecteurs qui lisent du papier ou les lecteurs qui lisent du numérique,
ma question n'était pas bouquins, qu'est-ce que ça change quand on parle du livre numérique. C'est qu'est-ce que les nouvelles technologies changent dans le rapport entre les lecteurs. Mais en deux minutes, si ça vous paraît un sujet intéressant.
Je perçois rien de précis sur la question. Moi, je voudrais dire un truc par rapport à l'intitulé général de ce débat. C'est que on cherche d'autres exploitations du livre en temps de crise. C'est tout. C'est-à-dire que tant que, en gros, vendre des bouquins en librairie, ça suffit pour vivre décemment, être heureux de ce qu'on fait et rendre les gens heureux, fondamentalement, on n'a pas besoin ni numérique, ni d'impression à la demande, ni même de traduction à l'étranger. Après tout, si elle tombe du ciel, c'est pas plus mal, mais voilà, on ne cherche pas pour vivre. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que l'édition ne se suffit plus à elle-même et elle a besoin d'autre chose. Elle cherche de l'adaptation audiovisuelle, elle cherche du jeu vidéo, elle cherche du multimédia, du numérique, elle cherche à traduire, etc. Et Pierre est assez bien placé pour le savoir, étant traduit en effet une dizaine de langues, dont l'anglais et les États-Unis. Je pense que Pierre a gagné mieux sa vie avec le revenu des traductions à l'étranger qu'avec ses ventes en France, ou au moins aussi bien. Donc c'est aussi pour ça que c'est que si Brajlon c'est tellement, et bon, ma pomme en l'occurrence au départ, est vertué à obtenir des traductions à l'international, c'est pour gagner des sous en plus qu'on ne gagne pas en vendant des livres sur un marché domestique. Dans des très grandes maisons comme Albin Michel, les traductions en anglais, c'est 30% du chiffre d'affaires. C'est absolument gigantesque. Donc, c'est pas un constat, déprimant, hein. Mais je pense qu'il faut quand même être conscient de ça. C'est que, le marasme de la librairie et de l'édition livre nous oblige, si en tout cas on a une capacité à être réactif, et tu as fait l'honneur de dire qu'on l'était, et je te remercie, réactif et créatif, et trouver d'autres façons de réaliser notre mission, comme Philippe l'a très bien dit, en disant la seule façon de publier les bouquins qu'il publie, c'est de le faire avec l'impression à la demande. Voilà, génial, il fallait avoir l'intelligence de trouver ça, et de le faire et de s'y évertuer. Et je pense que les autres exploitations sont exactement du même ordre, elles sont devenues aujourd'hui quasiment nécessaires.
Je crois que ce sera une belle conclusion pour notre table ronde. Donc, nous remercions tous les participants et merci à vous.